Bonjour à vous et bienvenue dans cette chronique histoire. Aujourd'hui, on attaque l'une des plus grandes périodes de gloire de la France, l'époque napoléonienne. Mais pour mieux comprendre la situation de la France et l'émergence de Napoléon Bonaparte, nous vous conseillons d'écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 5. Au lendemain du 21 janvier 1793, la France se réveille endeuillée. La petite fille de l'église vient de perdre sa figure, sa stature et sa dignité. Tandis que les fleurs de lys fanaient, les hommes avides de pouvoir s'agglutinaient à Paris. C'est dans une période de terreur portée par Maximilien Robespierre que notre récit reprend. L'exécution du roi Louis XVI marque de toute évidence une fracture dans la société, car comme nous le disions durant l'épisode précédent, la révolution n'est pas vraiment la révolte du petit peuple contre le pouvoir, c'est plutôt dans quelques grandes villes que la révolution a trouvé ses soutiens. Le petit peuple quant à lui était plutôt inquiet, notamment à cause des rumeurs qui se répandaient à propos des comtes et des ducs. Côté politique révolutionnaire, on retrouvait aussi un conflit. D'un côté, les montagnards, dominés par la figure qu'est Robespierre, alors eux, c'était plutôt les extrémistes de la révolution, ils voulaient l'abolition de tous les privilèges et la mort du roi. De l'autre côté, les Girondins, favorables au libéralisme économique et qui souhaitaient aussi inclure le roi dans leur politique. Mais seulement 6 mois après l'exécution du roi, les montagnards parviennent à obtenir la majorité de la Convention et font en suivant arrêter les députés girondins qu'ils accusent de comploter contre le nouveau régime. Mais la plus grande menace réside ailleurs. Autour de la France, les grandes puissances s'organisent. Ainsi, l'Espagne et le Portugal rejoignent la coalition anti-française dès la mort du roi. Et tenez-vous bien, la France doit faire face à une sacrée coalition, car elle comprend le Saint-Empire romain germanique, l'Empire russe, le Royaume de Prusse, le Royaume de Grande-Bretagne, le royaume de Naples, le royaume de Sardaigne et bien d'autres duchés.
Pour contrer cette menace grandissante, la France fait lever 300 000 hommes en urgence à travers le territoire. C'est cet ordre qui va mettre le feu aux poudres. Dans un conflit interne à la France, la guerre de Vendée. Cette guerre oppose la garde nationale aux Vendéens. C'est face aux menaces tant intérieures qu'extérieures que la Convention durcit ses lois et ses répressions. C'est ainsi que de très nombreux Vendéens se furent exécutés et que l'armée fut régulièrement appelée contre les civils. C'est le début de la Grande Terreur. En septembre 1793, toujours, la loi des suspects est votée. Et c'est cette loi qui va terroriser citoyens comme politiques. Mais que prévoit cette loi? Elle permet de définir comme suspect toute personne potentiellement contre la Révolution, que ce soit par ses idées, ses actions ou ses fréquentations. Tout suspect peut être arrêté, emprisonné, jugé ou encore tué. C'est donc le Comité de Salut Public, nouvelle instance révolutionnaire qui va détenir l'essentiel des pouvoirs durant la période. C'est donc par la peur que la République va connaître ses premiers mois d'existence. Près d'un an plus tard, la situation a bien changé, les forces françaises ont réussi à repousser les coalisés et à mater la révolte vendéenne. Mais pourtant, Maximilien Robespierre s'accroche au pouvoir et fait exécuter tous ceux qui souhaitent mettre fin à ce régime de terreur. Et il ne fait pas les choses à moitié, même ses partisans sont concernés, à l'image de Danton qui sera décapité. Mais le 27 juillet 1794, un an et demi après la mort du roi, Robespierre est capturé et exécuté suite à l'action d'un groupe de députés nommés les Thermidoriens, en gros ceux ayant tenu tête à Robespierre.
Et parmi eux, on retrouvait plusieurs types de personnes. Les modérés, essentiellement des députés du Marais, comme Seyès ou Boissy d'Anglas. On retrouve aussi les opposants à Robespierre, comme Tallien, Fouché ou Carrier. Et certains membres du gouvernement révolutionnaire, comme Barère, Carnot, Claude Herbois ou Billaud Varenne, certains ayant pleinement participé à la mise en place et à l'entretien de la terreur, seront par la suite écartés des pouvoirs, voire même exécutés. Et dès 1795, les députés girondins sont réintégrés et un nouveau régime voit le jour, nommé le Directoire. Mais ce régime crée une nouvelle fois la discorde au sein de la population, car les 5 directeurs qui doivent être élus sont élus au suffrage censitaire, ce qui exclut les populations les plus pauvres. Et à peine 4 mois après l'arrivée de ce nouveau régime, l'instabilité reprend avec des révoltes populaires et en parallèle, la France continue de se défendre contre la coalition et c'est durant cette période qu'un commandant français brille plus que les autres, un certain Napoléon Bonaparte.
Napoléon Bonaparte naît le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, une île que la France venait d'acheter à la République de Gênes en 1768. Il est issu d'une famille de la petite noblesse corse, mais elle n'est pas riche. Son père, Carlo Bonaparte, avocat et administrateur au service de la couronne française, aspire à faire des affaires et à gravir les échelons sociaux. Sa mère, Laetitia Ramolino, est issu d'une famille aristocratique corse, réputée pour sa force de caractère et sa discipline. Elle jouera d'ailleurs un rôle déterminant dans l'éducation de ses enfants, et en particulier celle de Napoléon. Il est l'aîné des 8 enfants, et il se distingue dès son plus jeune âge par sa vivacité d'esprit et son caractère impétueux. La Corse, à l'époque, est secouée par des conflits internes entre les partisans de la République française et ceux qui prônent l'indépendance de l'île. Bien que la famille Bonaparte soit favorable à la France, elle reste marquée par les luttes politiques qui déchirent la Corse, notamment les affrontements entre les factions locales et l'arrivée des troupes françaises. Si la famille Bonaparte se range du côté des Français, Napoléon grandit dans un climat de révolte, de division et de nostalgie pour l'indépendance corse. Les parents de Napoléon, tout en favorisant son éducation dans des institutions françaises, lui transmettent des valeurs corses profondes, une fierté de son identité et une volonté farouche de se distinguer, de se faire une place dans le monde. Laetitia exerce une influence considérable sur ses enfants, leur inculquant des principes de rigueur et d'ambition. Dès l'âge de 9 ans, Napoléon est envoyé à l'école militaire de Brienne-le-Château, dans le sud de la Champagne, en France. Une décision qui marque un tournant important dans sa vie. C'est une expérience décisive qui symbolise son éloignement de la Corse et le début de sa formation dans la culture et les institutions françaises. Il arrive à Brienne en 1779, comme l'un des nombreux enfants nobles ou bourgeois envoyés pour suivre une formation militaire. Dans cet établissement, Napoléon est l'un des rares élèves corses et il se distingue d'emblée par son esprit analytique et sa capacité à comprendre les sciences militaires et stratégiques.
Cependant, son enfance à Brienne n'est pas un chemin de rose. Il souffre du rejet de ses camarades en raison de son accent corse et de ses origines modestes. Isolé, il se réfugie dans les études et les livres. L'enfant timide et parfois même moqueur envers les autres élèves trouve du réconfort dans la lecture des grands auteurs, mais aussi dans les ouvrages militaires, notamment les stratégies de célèbres généraux et histoires des batailles. Ces lectures nourrissent son imagination et sa volonté de devenir un grand chef militaire. C'est à cette époque qu'il commence à développer sa passion pour la guerre, la tactique et la stratégie. En 1784, Napoléon quitte Brienne pour l'école royale militaire de Paris, où il est admis après avoir réussi un concours exigeant. À 15 ans, il devient sous-lieutenant de l'artillerie. La transition de Brienne à Paris est un autre bouleversement de sa vie, car il quitte une institution provinciale pour un établissement prestigieux de la capitale. Cette étape se déroule à un moment où la France traverse une période d'instabilité sociale et politique. Napoléon, toujours un jeune homme solitaire, se forge alors une volonté de fer. Il n'est pas seulement un élève, mais un individu déterminé à surmonter ses faiblesses et à faire valoir ses talents. Napoléon est un étudiant brillant, bien que son tempérament introverti et sa difficulté à s'intégrer aux autres élèves ne l'aident pas dans ses relations sociales. Toutefois, son travail acharné et sa détermination à réussir ne laissent pas indifférents ses professeurs. En 1785, à l'âge de 16 ans, il obtient son premier poste de sous-lieutenant dans l'artillerie. Cette nomination est une consécration pour le jeune homme, issu d'un milieu relativement modeste, mais elle ne comble pas encore ses ambitions dévorantes.
Dans les années qui suivent, la Révolution française éclate, bouleversant la structure politique et sociale de la France. Pour un jeune officier comme Napoléon, cela représente à la fois une menace et une opportunité. La Révolution provoque des bouleversements qui changent la société française et la fin de l'Ancien Régime donne aux jeunes officiers comme Napoléon une chance d'ascension sociale qu'ils n'auraient jamais eue sous l'Ancien Régime. L'armée, qui est l'un des piliers du pouvoir républicain naissant, devient alors un terrain d'opportunité pour un homme ambitieux comme lui. Les premières années d'adolescence de Napoléon, marquées par la rigueur militaire et le rejet social, l'ont forgé et l'ont préparé à ce qui allait suivre. Son esprit analytique, sa capacité à transformer ses faiblesses en atouts et sa soif de gloire vont le conduire à prendre des décisions qui façonneront son destin. Ainsi, l'enfance et l'adolescence de Napoléon furent l'occasion de forger son caractère, sa discipline intérieure et de nourrir les ambitions qui allaient l'élever au sommet de la hiérarchie militaire et politique. Napoléon, qui observe ces événements depuis la distance de sa Corse natale, va très vite comprendre que son avenir ne réside pas dans la vie civile, mais dans l'armée. Le jeune officier, qui passe de la simple position d'artilleur à celle de général, se fait remarquer par ses talents de stratège, mais aussi par sa capacité à manipuler les situations à son avantage. C'est aussi la période où il adopte son célèbre chapeau bicorne et son regard perçant, qui deviendront les symboles de son pouvoir.
La Révolution française, avec ses idéaux de liberté et d'égalité, offre à Napoléon une occasion de briller. En 1793, lors du siège de Toulon, alors qu'il n'a que 24 ans, il se distingue en menant l'artillerie républicaine contre les forces royalistes et anglaises. Toulon, situé sur la Méditerranée, était un port stratégique de la France, abritant l'une des principales bases navales du pays. En 1793, la Révolution française est en pleine effervescence. Et le pays est en guerre contre une coalition d'États européens, dont l'Angleterre, l'Espagne et la Russie notamment. Toulon, port militaire clé, devient le centre de l'attention lorsque des royalistes et des fédéralistes opposant à la Révolution prennent la ville et s'allient avec la flotte anglaise. Les royalistes, soutenus par la flotte britannique, espèrent faire de Toulon un bastion contre la Révolution et contre la Convention nationale qui gouverne la France à l'époque. Cette alliance de fait entre royalistes et les Britanniques rend la situation particulièrement délicate pour le gouvernement révolutionnaire qui doit absolument reprendre Toulon pour éviter que l'ennemi ne contrôle ce port stratégique. À cette époque, Napoléon Bonaparte est encore un jeune capitaine d'artillerie âgé de 24 ans qui n'a pas encore fait ses preuves sur le terrain. Il est en garnison à Nice où il suit de près l'avancée des combats. Lorsque les autorités révolutionnaires décident de s'attaquer à Toulon, Napoléon, qui connaît bien les tactiques militaires et l'art de la guerre, demande à être affecté à la campagne. Il est nommé à l'état-major de l'armée républicaine qui va prendre part au siège de Toulon. Bien que son poste officiel soit celui de jeune capitaine dans l'artillerie, il se distingue immédiatement par sa vision stratégique et sa compréhension approfondie du terrain.
Le siège de Toulon s'avère extrêmement difficile pour les troupes républicaines. La ville est bien fortifiée et protégée par une flotte anglaise puissante. Cependant, Napoléon va utiliser sa connaissance de l'artillerie pour inverser le cours des événements. Dès son arrivée sur place, Napoléon remarque que la position des royalistes et des forces anglaises est vulnérable, mais qu'ils ont pris possession des hauteurs autour de la ville. Il comprend rapidement que la clé de la victoire réside dans le contrôle des positions élevées, à partir desquelles la ville et la flotte peuvent être bombardées. C'est dans cet esprit qu'il propose un plan audacieux, installer des canons sur les hauteurs autour de Toulon, en particulier sur la colline du Mont Faron, afin de réduire la capacité de la flotte anglaise à interférer avec l'attaque terrestre. Napoléon convainc ses supérieurs de l'importance stratégique de cette position et obtient l'accord pour déplacer une batterie d'artillerie sur cette colline. Les Britanniques, qui contrôlent les hauteurs, n'avaient pas anticipé que les Français pourraient tenter une attaque sur ce terrain difficile. Grâce à cette position élevée, Napoléon et ses hommes peuvent enfin dominer la ville et la flotte anglaise qui, jusque-là, avait pu opérer relativement librement. Le 17 décembre 1793, après plusieurs semaines de combats acharnés, Napoléon réussit à installer ses batteries d'artillerie sur le Mont Faron. Cette prise de position permet de pilonner les fortifications de la ville et de contraindre les forces royalistes et britanniques à se replier. Les républicains, galvanisés par cette victoire tactique, intensifient les attaques sur Toulon. Finalement, les royalistes et leurs alliés britanniques sont contraints de se retirer, abandonnant la ville et la flotte. Napoléon, grâce à sa brillante gestion de l'artillerie et à son rôle décisif dans la prise de Toulon, se distingue alors comme un chef militaire capable de penser et d'agir rapidement dans des situations complexes. À la suite de cette victoire, il est promu brigadier général à seulement 24 ans, une ascension fulgurante pour un jeune officier. Cette victoire, marquée par une série de manœuvres audacieuses, met en lumière les talents de Napoléon, mais aussi son esprit d'initiative et sa capacité à convaincre ses supérieurs d'adopter des stratégies non conventionnelles. C'est un tournant pour lui, car il passe de la position d'un jeune capitaine d'artillerie relativement obscur à celle d'un général respecté et reconnu pour son génie militaire. Le siège de Toulon n'est pas seulement une victoire militaire, c'est un véritable tremplin pour Napoléon. Ce succès attire l'attention des autorités de la Révolution, qui voient en lui un stratège prometteur. Son nom commence à circuler parmi les cercles militaires et son ascension est désormais lancée. Toulon, avec sa victoire décisive, permet à Napoléon d'être remarqué, de se faire une place parmi les figures militaires les plus en vue et de préparer son ascension vers des postes de plus grande responsabilité. La campagne de Toulon, qui semblait être un simple épisode militaire parmi tant d'autres, marque donc un tournant majeur dans la carrière de Napoléon Bonaparte. Ce siège est l'une des premières étapes de sa montée en puissance, avant qu'il ne devienne l'un des plus grands généraux de l'histoire militaire et le leader incontesté de la France.
À la suite de cette victoire, Napoléon est envoyé à Nice pour une nouvelle affectation et se retrouve désormais commandant d'artillerie à la tête de l'armée d'Italie. En 1796, la situation militaire de la France est complexe. La République française est en guerre contre une coalition européenne composée de l'Autriche, du Royaume de Sardaigne, de l'Espagne, du Royaume de Naples, entre autres. L'armée française se trouve dans une position difficile, en particulier en Italie, où les troupes républicaines, mal équipées et démoralisées, affrontent une coalition bien organisée et supérieure en nombre. En Italie, l'armée française lutte contre les forces austro-sardes dans un théâtre d'opérations complexe et difficile. La situation semble désastreuse pour la France et l'armée italienne, au moral bas et sur le point de s'effondrer. C'est dans ce contexte que Napoléon Bonaparte est nommé à l'âge de 26 ans commandant en chef de l'armée d'Italie par la Convention nationale sous l'impulsion de Paul Barras, un des directeurs du gouvernement révolutionnaire. Ce choix peut paraître risqué, mais il se révèle rapidement brillant. Dès son arrivée, Napoléon constate l'importance stratégique de l'Italie, notamment de la région de la Lombardie, contrôlée par les Autrichiens. Pour Napoléon, la campagne d'Italie n'est pas seulement une guerre militaire, mais aussi une guerre idéologique pour diffuser les idéaux de la Révolution française, la liberté, l'égalité et la fraternité. La bataille de Lodi, le 10 mai 1796, est l'un des moments clés de la campagne d'Italie. Avec cette bataille, les troupes françaises ont remporté plusieurs victoires, mais c'est Lodi qui marque un véritable tournant. Après avoir traversé les Alpes et mené plusieurs batailles contre les Sardes, Napoléon se retrouve face à l'armée autrichienne qui défend la ville de Lodi, un point stratégique sur la route menant à Milan. Le général autrichien Joseph Alvinci a fortifié la ville et ses abords, mais Napoléon, fidèle à son style audacieux, décide d'attaquer directement. Les Français doivent franchir un pont étroit sous le feu de l'ennemi. Napoléon prend le risque majeur en ordonnant une charge directe, mais son audace paye. La bataille est très violente, avec des pertes des deux côtés, mais la charge des Français sur le pont est décisive. Après plusieurs heures de combat intense, l'armée autrichienne, qui perd son avantage stratégique, se retire. La victoire de Lodi est décisive, car elle permet aux Français de prendre le contrôle de la route menant à Milan et d'enfoncer la ligne défensive des Autrichiens. C'est une victoire symbolique, Napoléon devient un héros national et sa réputation de génie militaire commence à se forger.
Un an après la campagne d'Italie, la France est toujours en guerre contre l'Europe coalisée. L'Angleterre, maîtresse des mers, reste son ennemi la plus acharnée. Pour contrer son influence en Méditerranée et en Orient, le Directoire confie à notre jeune général auréolé de gloire une mission ambitieuse, conquérir l'Égypte, passerelle entre l'Europe et les Indes britanniques. Cette campagne vise aussi à établir une présence française en Orient et à étendre l'influence des Lumières. Le 19 mai 1798, Napoléon apparaît de Toulon avec une flotte imposante de 400 navires et près de 40 000 hommes, parmi lesquels des savants, ingénieurs et artistes. Il s'agit autant d'une campagne militaire que d'une expédition scientifique. Après une escale à Malte, où il renverse l'ordre des Hospitaliers en quelques jours, Bonaparte atteint les côtes égyptiennes le 1er juillet. Les troupes françaises prennent Alexandrie d'assaut et s'y établissent. Napoléon promet au peuple égyptien de ne pas menacer leur religion et prétend être venu libérer le pays des Mamelouks, un peuple d'origine turque et caucasienne qui domine l'Égypte depuis des siècles. Ils sont passés d'esclaves à sultanat en quelques siècles. Le 21 janvier, remontant le Nil, Napoléon affronte les Mamelouks menés par Mourad Bey près du Caire. Conscient de la supériorité de la cavalerie ennemie, il organise ses troupes en carré défensif. Et grâce à cette tactique, l'armée française anéantit les forces mamelouks. Cette victoire retentissante ouvre la voie à l'occupation du Caire. Le 1er août, tandis que Napoléon consolide son emprise sur l'Égypte, la flotte française stationnée dans la baie d'Aboukir est attaquée par l'escadre britannique de l'amiral Horatio Nelson. Nelson, c'est un des amiraux les plus brillants de l'histoire de la flotte britannique et il restera à jamais une des plus grandes bêtes noires de Napoléon. La bataille navale tourne au désastre, presque toute la flotte française est détruite, Napoléon et son armée se retrouvent coupés de la France. Pour contrecarrer les menaces ottomanes et britanniques, Napoléon se lance dans une expédition vers la Syrie en 1799. Il assiège Saint-Jean-d'Acre, au nord d'Haïfa en Israël, mais échoue face à la résistance acharnée des forces ottomanes et britanniques. Après plusieurs victoires, mais affaibli par les maladies et les pertes, il est contraint de se replier en Égypte en mai 1799. Malgré son échec en Syrie, Napoléon triomphe des Ottomans lors de la bataille d'Aboukir le 25 juillet 1799. Cette victoire redonne un peu d'élan à la campagne, mais la situation politique en France le pousse à envisager un retour. Informé des troubles politiques en France et des opportunités qui s'ouvrent à lui, Napoléon quitte secrètement l'Égypte en août 1799, laissant le commandement au général Kléber. Ce dernier tente de stabiliser la situation, mais il est assassiné en 1800. Sous la pression conjointe des Ottomans et des Britanniques, les Français, sous les ordres de Menou, sont contraints de capituler en 1801. L'armée se rend aux Britanniques et quitte définitivement l'Égypte, marquant la fin de cette ambitieuse expédition. Si l'expédition se solde par un échec, la campagne d'Égypte a quand même eu un impact considérable. L'expédition scientifique menée par les savants français aboutit notamment à la découverte de la pierre de Rosette, Vous savez, c'est cette pierre qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes.
Et on se dirige maintenant au 18 brumaire de l'an 8 du calendrier républicain. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un brumaire, c'est simplement le deuxième mois du calendrier républicain, ce qui pour nous correspondrait à la période allant du 20 octobre au 20 novembre. Et pour faire simple, le calendrier républicain, eh ben ça fonctionne avec 3 semaines de 10 jours pendant 12 mois. Bon, alors autrement dit, on se retrouve le 9 novembre 1799 et les deux assemblées législatives du directoire, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens, quittent la capitale en raison d'une menace royaliste inventée de toutes pièces par Bonaparte, qui se doit de protéger Paris. 3 des 5 directeurs démissionnent, tous complices de ce coup d'État. Les 2 autres sont arrêtés, le pouvoir exécutif est donc vacant. Le lendemain, le 10 novembre, l'armée encercle les 2 conseils, à qui on impose de modifier la Constitution. L'armée expulse les députés et sous la contrainte, ils acceptent de nommer dans la nuit du 20 brumaire les 3 consuls provisoires chargés de rédiger la Constitution. C'est la fin du directoire par la force et le début du consulat, c'est-à-dire que le pouvoir appartient à 3 consuls, Napoléon Bonaparte, Emmanuel-Joseph Seyès et Roger Ducos. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire ou alors que vous avez simplement écouté notre deuxième épisode sur Rome, cela vous dit peut-être quelque chose, car en effet, c'est une forme de triumvirat moderne. Et on se retrouve le 13 septembre 1799 donc, et la nouvelle constitution est signée, et Napoléon Bonaparte devient le premier consul et vainqueur de ce coup d'État. C'est donc un magnifique présent qu'a fait Napoléon à l'histoire pour les 10 ans de la Révolution française. Il a tout bonnement pris possession des pleins pouvoirs, ou presque, car après s'être nommé premier consul, il se nomme consul à vie, puis en 1804, il décide d'adopter un régime impérial, où il sera sacré le 2 décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris, renouant avec les signes monarchiques, un autre présent, cette fois pour les 15 ans de la Révolution. Alors concrètement, quels sont donc les pouvoirs de Napoléon Ier ? Alors pour faire simple, il dispose de tous les pouvoirs, des pleins pouvoirs donc. Il dispose même du pouvoir législatif, qui devrait être entre les mains du Conseil d'État et du Sénat. Or, pour l'un comme pour l'autre, c'est lui qui nomme directement les membres. Ainsi, ces textes finissent tout au plus par être légèrement retravaillés, mais jamais refusés ou alors très rarement, si Napoléon admet une erreur. Pas très démocratique, direz-vous ? Alors la réponse de Napoléon fut intelligente. Contrairement au directoire, le régime précédent, l'empereur instaure le suffrage universel masculin, faisant passer le nombre de votants de 70 000 environ à près de 4 millions. D'ailleurs, Napoléon multiplie les plébiscites, une sorte de référendum où il s'adresse directement à la population qui doit répondre par oui ou par non. Ces manœuvres ont permis à l'empereur d'être soutenu par sa population qui se sentait écoutée. Car bon, alors en réalité le régime était assez peu démocratique, étant donné que personne ne pouvait remettre en cause sa personne. Il censurait la presse, il surveillait les citoyens pour réduire au silence toute opposition. Détenteur de tous les pouvoirs, Napoléon Ier commence de grandes réformes législatives. Il renoue aussi avec la noblesse, de même avec l'Église, en signant le Concordat en 1801, ce qui lui permet aussi de nommer les évêques lui-même. D'ailleurs, comme il a les pleins pouvoirs, on va pouvoir passer en revue tout ce qu'il a mis en place pour la France depuis son accession au pouvoir. Alors d'abord, le plus important, certainement, le Code civil, l'une des réalisations les plus durables de l'empereur, également appelé le Code Napoléon. Il a été promulgué en 1804. Ce recueil de lois a modernisé et unifié le droit civil en établissant les premiers principes clairs concernant la propriété, les contrats de mariage, la succession et bien d'autres domaines. Le Code Napoléon a servi de modèle à de nombreux autres pays européens, inspirant la législation dans de nombreux pays comme l'Italie, le Québec, l'Espagne ou encore les pays d'Amérique latine. Et à travers lui, Napoléon a laissé un héritage juridique qui structure encore aujourd'hui le droit civil de nombreux États. Ensuite, on lui doit la Banque de France. Elle a été fondée en 1800, et alors là, c'est sans doute l'une des plus grandes prouesses de Napoléon. Son objectif initial était de stabiliser l'économie française en crise après les tumultes de la Révolution. Pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, vous savez que c'est les problèmes d'économie qui ont principalement fait chuter la royauté française. Mais la Banque de France a joué un rôle clé dans la régulation de la monnaie et la consolidation du crédit. Elle a grandement contribué à la création d'un système bancaire moderne et centralisé. Et aujourd'hui encore, elle reste la base de l'économie française. Et après, on lui doit aussi beaucoup pour le système éducatif. Napoléon était quelque peu en avance sur son temps, car 80 ans avant Jules Ferry, une sorte d'école pour tous a vu le jour. L'un de ses grands accomplissements est la création des lycées. Alors à l'origine, c'était des établissements scolaires destinés à former l'élite de la nation. Il a aussi établi les grandes écoles, comme l'école polytechnique, qui sont toujours au cœur de l'éducation supérieure en France. Ces institutions ont non seulement formé des ingénieurs, des militaires, des administrateurs, mais ont aussi permis à la France de renforcer son savoir-faire technique et scientifique. Par ailleurs, le baccalauréat que vous connaissez tous a également été instauré par Napoléon, et cela reste la clé de voûte du système éducatif français, marquant l'entrée dans l'enseignement supérieur. Puis la fameuse Légion d'honneur, alors même si aujourd'hui elle est donnée un petit peu à n'importe qui, elle reste quand même la plus haute distinction française. Napoléon l'a mise en place pour récompenser les mérites civils et militaires, indépendamment de l'origine sociale et de la classe sociale. Aujourd'hui, cette distinction est attribuée aux personnes qui se sont illustrées par des actions exceptionnelles au service de la nation. On lui doit aussi la centralisation administrative. Et alors là, un grand merci à cet homme pour cette structuration. En fait, c'est Napoléon qui a divisé le pays en départements en établissant un système hiérarchisé avec des préfets à la tête de chaque département. Ce modèle administratif perdure encore aujourd'hui, assurant une coordination efficace entre l'État central et les collectivités locales. Et alors, moins connu, mais toujours aussi important, comme un certain Charlemagne près de 1000 ans avant lui, et là aussi petite référence à l'épisode sur les dynasties françaises, Napoléon a unifié le système de mesure. Il a contribué à l'adoption du système métrique, une révolution dans la standardisation des mesures. Ce système conçu au début de la Révolution française a été imposé par Napoléon Ier dans tout l'Empire, remplaçant les anciennes unités de mesure locales disparates. On arrive à présent au chapitre tant attendu des conquêtes de Napoléon, et pour ouvrir ce chapitre, on accueille Louis, notre consultant historique. Bonjour à toi Louis.
Printemps 1796, Napoléon Bonaparte, à peine âgé de 26 ans, prend le commandement de l'armée d'Italie. Ses hommes sont mal équipés, sous-payés et démoralisés, face à une coalition austro-sarde bien retranchée dans les Alpes. Mais Napoléon a un atout. Sa vision stratégique et son énergie débordante. Dès son arrivée, il s'adresse aux soldats. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris, mais je vais vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. » Une promesse qui enflamme les cœurs fatigués. En avril, Napoléon attaque. Il divise ses forces pour frapper là où l'ennemi ne l'attend pas. Une tactique qu'il répétera tout au long de sa carrière. En 3 semaines, il bat les Sardes à Montenotte et Millésimo, les forçant à demander la paix. Désormais, il fait face à l'armée autrichienne. Il manœuvre vite, traverse des rivières en crue, attaque sur plusieurs fronts à la fois. À Lodi, en mai, il force un passage héroïque sur un pont balayé par le feu ennemi. Les soldats le voient en première ligne et commencent à l'appeler « Petit Caporal ». Mais la guerre est loin d'être terminée. L'Autriche envoie une nouvelle armée sous Würzmer pour reprendre Milan. Napoléon la bouscule, isole ses divisions et l'écrase en plusieurs batailles. Castiglione, Arcole, Rivoli, Arcole, cette scène légendaire où Bonaparte, sous une pluie de balles, saisit un drapeau et rallie ses hommes. Il dira lui-même « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre ». Finalement, après une année de combats acharnés, Vienne est exposée et l'Autriche capitule. En octobre 1797, le traité de Campo Formio met fin à la guerre. Napoléon a vaincu. Il a non seulement conquis l'Italie, mais aussi posé les bases de son mythe. 1798. Napoléon embarque pour l'Égypte, rêvant de couper la route des Indes aux Britanniques. Ça tombe bien, le Directoire, alors au pouvoir, craint ce général populaire et les potentielles ambitions politiques qu'il peut avoir. C'est décidé, Napoléon part pour l'Afrique. Le débarquement est un succès et la bataille des pyramides est une grande victoire française. Il y écrase les Mamelouks. Il s'adresse ainsi à ses hommes. Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Malheureusement pour le général victorieux, la flotte française est anéantie à Aboukir par l'amiral Nelson. Coupé de la France, Napoléon tente tout de même une expédition en Syrie. Mais le siège de Saint-Jean d'Acre tourne au désastre. Affaibli par la peste et les contre-offensives anglaises et ottomanes, il abandonne l'Égypte en 1799, tout en y laissant son armée en garnison. Il rentre en France. Grâce à une habile campagne de propagande, notamment à coups de tableaux qui sont restés célèbres, et aussi avec son journal qu'il publie lui-même, Il rentre victorieux malgré l'échec militaire de la campagne. Il retrouve une nation en crise et une opportunité. 1805, Napoléon, désormais empereur des Français, affronte la troisième coalition. Son objectif est simple, anéantir les Russes et les Autrichiens avant que d'autres alliés ne se joignent à eux. Il traverse le Rhin et fonce vers Vienne. Après une série de manœuvres fulgurantes, il piège l'armée ennemie et la tire sur le champ de bataille d'Austerlitz. C'est la célèbre bataille des trois empereurs. Le 2 décembre, Napoléon fait mine de reculer. Les coalisés mordent à l'hameçon et attaquent son flanc droit, qu'ils trouvent vulnérable. Mais c'était un piège. La grande armée se referme sur eux comme une tenaille. C'est un chef-d'œuvre classique, le coup de génie de Bonaparte. À la fin du jour, la coalition est anéantie. 36 000 morts et prisonniers. Napoléon triomphe. Cette victoire lui vaut le surnom de l'aigle d'Austerlitz et impose sa domination sur l'Europe. Alors que le soleil d'Austerlitz se lève et dissipe la brume, il s'adresse ainsi à ses soldats. « Soldats, je suis content de vous. Il vous suffira de dire « J'étais à Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Ah, voilà un brave. » 1812, Napoléon réunit la plus grande armée de son histoire, 600 000 hommes. Son objectif, Moscou. Mais la Russie évite la bataille frontale, appliquant la tactique de la terre brûlée. Les villes sont abandonnées, les vivres détruits. La progression devient un cauchemar logistique. Chaque village incendié est une déception. Chaque jour sans combat est un pas de plus vers l'usure. Enfin, après des mois de marche, Napoléon rencontre les Russes à Borodino le 7 septembre. Une bataille d'une violence inouïe. Plus de 70 000 morts en une journée. C'est un carnage. Napoléon remporte une victoire, mais au prix de lourdes pertes. L'armée russe, bien que saignée, ne s'effondre pas. Le tsar refuse de capituler. Napoléon aurait pu faire donner la garde et réduire l'ennemi au néant. Mais, courant encore après le songe d'une paix, il préféra épargner de bon cœur les ennemis. Quelques jours plus tard, Napoléon rentre dans Moscou. Mais la ville est vide. Un piège. Dans la nuit, des incendies se déclarent partout. Moscou brûle pendant 5 jours. Sans vivres, sans abri, Napoléon comprend qu'il est pris au piège de l'hiver russe. En octobre, il ordonne la retraite. Un calvaire commence. Le froid est meurtrier. Les températures chutent à moins 30 degrés. Les soldats tombent, gelés sur place. Les chevaux meurent en masse, privant l'armée de transport et de ravitaillement. Affamés, les hommes en viennent à manger leurs montures. Chaque rivière devient une embuscade, chaque bivouac une fosse commune. À la Berezina, l'armée tente un passage désespéré sous le feu russe. Les ponts improvisés s'effondrent sous le poids des hommes paniqués. C'est un carnage. De cette grande armée de 600 000 hommes, seuls 40 000 en ressortent vivants. Napoléon quitte précipitamment l'armée pour Paris. C'est un désastre. L'Europe entière comprend, Napoléon et la France ne sont plus invincibles. Le 18 juin 1815, l'Europe assiste à l'un des tournants les plus dramatiques de son histoire. Après une année d'exil et un retour triomphant en 1815, Napoléon Bonaparte, empereur des Français, se retrouve une fois de plus à la tête de son armée. Mais ce qui l'attend à Waterloo, en Belgique, pourrait bien être son dernier combat. Après avoir échappé aux forces alliées qui le poursuivaient, Napoléon s'apprête à livrer une bataille décisive contre une coalition puissante. Cette fois, c'est une alliance redoutable. Les Britanniques, sous le commandement du duc de Wellington, et les Prussiens, menés par le maréchal Blücher. Les deux armées sont prêtes à en découdre, et la victoire de l'un d'eux changera le destin de l'Europe et la face du monde. Le terrain de Waterloo est marécageux et boueux, une situation qui rend l'engagement difficile. Mais Napoléon, toujours stratégique, utilise son expérience pour tenter de briser les lignes ennemies. Il commence par attaquer la droite de l'armée britannique, espérant que Wellington pliera sous la pression. Les premiers assauts sont puissants, l'armée britannique recule. Mais Wellington, habile dans la défense, tient bon, organisant des contre-attaques méthodiques. Au cœur de la bataille, Napoléon déploie ses réserves, cherchant à submerger ses ennemis. Mais alors que l'issue semble incertaine, un retournement survient. Les Prussiens, qui avaient été repoussés plus tôt, arrivent en renfort. Blücher, malgré les difficultés, mène ses troupes avec détermination. C'est le coup de grâce. Les troupes françaises, épuisées et désorganisées, commencent à céder sous l'assaut combiné des alliés. L'armée de Napoléon, autrefois redoutée, s'effondre. Les généraux français tentent de maintenir la ligne, mais la défaite est inéluctable. L'empereur, face à la déroute de ses forces, ordonne une retraite, mais il est trop tard. Waterloo est perdu. Alors que les Anglais encerclent la garde impériale, ils leur disent ceci. « Français, vous vous êtes bien battus. Rendez-vous et grâce vous sera faite. » Un grognard s'exclame alors. la garde meurt mais ne se rend pas. Les Français, encerclés en sous-nombre, sont massacrés. Le lendemain, Napoléon, désormais seul et abattu, pense à un exil vers les États-Unis, mais, pensant pouvoir bénéficier d'un traitement de faveur, se rend aux autorités britanniques. Cette bataille, qui devait marquer un nouveau chapitre pour la France, se transforme en un funeste épilogue pour l'Empire. Waterloo, ce nom aujourd'hui gravé dans l'histoire, devient synonyme de la fin du régime. La chute de Napoléon est cette fois définitive. L'Empire français est terminé et l'empereur, une fois homme le plus puissant d'Europe, est envoyé en exil sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique. L'Europe, enfin, respire. Le rideau est tombé sur le règne de Napoléon et avec lui, l'ère des grandes révolutions. Waterloo n'a pas seulement marqué la fin d'un empire, mais aussi celle d'une époque.
Il faut aussi savoir que Napoléon, ce n'est pas un chef comme les autres. Alors à la différence de ses pairs ennemis, prussiens, russes ou encore anglais, Napoléon est un militaire de carrière qui est passé par tous les grades ou presque. Cadet gentilhomme, artilleur, lieutenant, lieutenant-colonel, capitaine, chef de bataillon, général de brigade, général de division et général en chef. Il est donc par défaut un très bon soldat, à quoi s'ajoutent ses connaissances en tactique militaire dignes des plus grands chefs. Son génie lui a permis d'obtenir le taux de victoire le plus élevé, tous généraux confondus, sur les 86 batailles qu'il a livrées en personne. Il en a remporté 77, soit un taux de 90% de victoire. Mais alors comment expliquer cette domination jamais vue auparavant? Napoléon Ier avait sa propre méthodologie pour préparer ses batailles. Et comme l'histoire l'a montré à de nombreuses reprises, il s'est trouvé le meilleur des alliés, le terrain. En effet, l'empereur passait de nombreuses heures à étudier les forêts, les fleuves et les hauteurs. Même sur son cheval, il continuait de scruter le paysage, aidé de ses ingénieurs géographes. Napoléon peut tout à fait changer de plan d'attaque, il peut anticiper et manœuvrer rapidement, et c'est cette rapidité entre la compréhension et l'exécution qui a été sa force pour mettre en déroute ses ennemis. Et bien souvent, il n'a même pas eu besoin de combattre tant sa stratégie aurait écrasé l'ennemi. En témoigne la bataille d'Ulm, où le terrain et une diversion ont suffi à faire capituler les Autrichiens. Autre arme que Napoléon utilisait, mais c'était les espions. Il en envoyait dans chaque armée. Par exemple, lors de la bataille d'Ulm citée précédemment, il envoya Charles-Louis Schulmeister dans l'armée autrichienne pour diffuser de faux documents et semer la discorde. Mais là aussi, ce n'est pas le seul atout de l'empereur. L'une de ses cartes maîtresses, c'est tout simplement la composition de sa grande armée qui ravageait les rangs ennemis tellement l'organisation était optimale. L'armée de Napoléon se divisait en 7 unités autonomes, à quoi s'ajoute la réserve de cavalerie ainsi que la garde impériale. Cette même garde qui avait comme maître mot de ne jamais reculer. Chaque unité était sous le commandement d'un maréchal, mais ces mêmes unités étaient divisées en 4 divisions, dirigées par des généraux, comprenant une division de cavalerie et 3 divisions d'infanterie avec l'artillerie. Et à l'époque, l'artillerie de Napoléon est la meilleure au monde. L'équipement des soldats et leurs vivres sont réduits, les canons sont pensés pour être mobiles. En quelques mots, Napoléon disposait de la force de frappe la plus imprévisible et la plus puissante au monde. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cet épisode que nous avons fait une nouvelle fois avec passion. Et la semaine prochaine donc, on va encore un petit peu avancer dans le temps pour petit à petit arriver jusqu'à nos jours. Et on va parler d'un événement qui est encore assez récent, qui a moins d'un siècle. Nous allons parler des deux guerres mondiales. Et pour ne pas rater donc ce prochain épisode, rendez-vous vendredi à 16h et 18h, ou alors en replay sur notre site rtm33.fr. À très bientôt sur RTM.